mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Mais tu connais même pas les inventions de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Rêvez-vous d'aventure? De partir à la découverte de votre quartier à vélo? De faire des randonnées dans les montagnes ou de longer les côtes de la mer sauvage? Avec vos propres forces physiques. Je vais vous présenter des amis, Coralie et Vincent. Tous les deux sont fans d'aventure. Vincent a le super projet de partir de Rennes vers le pôle Nord. Pour cela, il va partir à vélo, à ski et en bateau à cerf-volant. Il prépare son futur voyage qui va durer 9 mois et nous explique tout.
Venture time, que tout le monde réplique, filant vers un grand pays magique. J'ai que le chien et finalement, n'ont vraiment peur de rien. Adventure time!
Donc l'expédition Rennes-Pôle Nord, c'est une expédition qui partira l'année prochaine de Rennes, qui ira au Pôle Nord aller-retour. Et je ferai ça en solitaire et sans assistance. Sans distance, ça veut dire sans assistance motorisée principalement. Donc j'utiliserai des moyens de transport doux, mobilité douce, à savoir le vélo, le cerf-volant, la marche à pied, le ski. Et l'idée est d'aller là-bas pour observer et témoigner de la nature qu'on peut y trouver, mais aussi des changements actuels, et notamment ceux qui sont liés à l'activité humaine et au réchauffement climatique. Et l'idée est de témoigner, d'observer, pas tout seul dans son coin, mais de partager ça un maximum avec les Rennais et les Rennaises, et principalement les écoles, les centres de loisirs, et voilà.
Du coup, dans ton expédition, tu vas traverser quel pays ?
Je traverserai le nord de la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, un petit morceau du Danemark, et ensuite je longerai toute la côte est de la Suède pour enfin arriver en Laponie et traverser un petit peu de la Norvège. Donc c'est le seul endroit, cet endroit-là, à la fin que je rencontrerai un peu de montagne. Et ensuite, c'est pas fini, oui, tout à fait. Donc ça, c'est la partie vélo. Donc là, c'est à peu près 2 mois de voyage. Je compte 5 jours de vélo par semaine, à savoir 80 km de vélo par jour, ce qui fait à peu près 8 heures, on va dire 8 heures, entre 8 et 10 heures de vélo par jour. Et ensuite, il faut traverser une partie de l'océan Arctique, entre le nord de la Norvège et un archipel d'îles qui s'appelle les Spitsbergs, ou Svalbard en norvégien. Et donc là, à peu près 3 fois 3 jours de navigation. J'aurai la chance d'être là-bas à un moment où le soleil sera permanent. Donc c'est quand même assez agréable de pouvoir naviguer en pleine lumière de jour, et surtout moins dangereux. Et une fois arrivé au Svalbard, et bien là j'attendrai le moment opportun encore une fois pour attaquer la progression sur la banquise. Et donc là on a 3 mois pour essayer d'atteindre le pôle Nord. 3 mois parce que c'est la limite pour emmener une certaine quantité de vivres pour voyager sur la glace, et je peux pas en apporter un nombre infini de vivres, et j'étais limité à 90 jours, 90 kilos de nourriture. Donc ça fait à peu près 3 mois pour essayer d'atteindre le pôle Nord et revenir au Svalbard, où là je pourrais retrouver de la nourriture pour revenir vers Rennes. Et voilà, pour aller vers Rennes, j'utiliserai les mêmes moyens de transport, à savoir traverser sur l'eau jusqu'au nord de la Norvège, et ensuite en vélo jusqu'à Rennes, ce qui fait un total de 9 mois.
Rennes-Pôle Nord, aller-retour en solitaire, 8236 km en vélo, 1920 km en kitesurf, 2500 km en ski, 9 mois d'expédition pour Vincent.
ça semble fou, l'ensemble est complètement fou, mais quand on prend les difficultés les unes après les autres, c'est pas si dur quoi. Il faut vraiment le voir comme ça. Moi je le vois comme ça, sinon en effet je serais écrasé par la difficulté. Mais si on se dit une journée de vélo c'est 80 km, c'est Rennes-Redon, quand on a un petit peu d'entraînement, bah, c'est pas si dur. Hein.
Et quand c'est plat, c'est encore mieux.
Et quand c'est plat, c'est encore mieux. Et après, bah, voilà, 3 jours de bateau. Bon, c'est pas si difficile que ça. Hein. J'en ai déjà fait 15 d'affilée sans voir personne. Bon, la banquise, là, ça commence à devenir un peu chaud quand même. Mais là, bon, la chose qui sera vraiment sympa, c'est que je serai en interaction très régulière avec, vous, avec les enfants, grâce aux communications satellites entre l'expédition toutes les personnes qui veulent me parler. Voilà, donc je ne serai pas si seul que ça sur la banquise, quoi.
C'est le record de la plus grande distance parcourue pour atteindre le pôle Nord. Objectif, zéro déchet, zéro CO2.
Et comment tu vas dormir alors ?
Eh bien, je dormirai. Alors là, on se dit oui, le pôle Nord, ça sera très très froid. C'est un gros glaçon. Eh bien, le pôle Nord en été, eh bien, c'est pas si froid que ça. Puisque j'y vais en été pour essayer de me balader un maximum sur la glace qui aura déjà fondu. Hein. Et donc, il fait à peu près 0 degré. 0 degré, c'est à peu près la moyenne, mais on va dire que ça peut aller de moins 10 à plus 10 degrés. Et dormir dans du moins 10, plus 10 degrés, c'est comme si vous dormiez dehors en hiver. Donc, il faut avoir un bon duvet et ça suffit. Le seul problème, ce sera l'humidité. Parce qu'on n'a pas la même sensation. Et quand on est dans du froid humide et dans du froid sec, là, ça sera du froid très humide, du froid humide salé. Sur la durée, ça rentre partout. Et en fait, on est tout le temps dans poisseux, quoi. Poisseux humide. Donc c'est assez désagréable. Et à la fin, on a de plus en plus de mal à se réchauffer. Donc c'est plus une guerre contre l'humidité que contre le froid.
Aujourd'hui, être explorateur, ce n'est plus découvrir des terres, mais les faire découvrir. Les humains sont déjà allés partout sur notre planète.
Tu peux nous décrire ton traîneau ?
Alors mon traîneau, eh bien, l'idée du traîneau est venue quand j'ai vu un coffre de toit sur une voiture. Et je me suis dit, oh bah c'est très bien, on peut dormir dans un coffre de toit, on n'a pas besoin de beaucoup plus de volume. Et je me suis dit, bon bah voilà, faut que je pars de l'idée du coffre de toit et je l'agrandis en fonction de mes besoins. Donc le coffre de toit, on va se dire, c'est le volume pour dormir, mais il me faut un peu plus pour mettre mes affaires, un peu plus pour m'asseoir et manger. Donc voilà, j'élargis ce volume et je le garde le plus petit possible pour que ça reste très léger. Donc là, à l'heure actuelle, le bateau que j'ai construit fait 5 mètres de long par 70 cm de large et à peu près 1 mètre de haut. Donc c'est vraiment l'espace minimal pour pouvoir tenir allongé et assis.
Parce que tu vas dormir dedans.
Parce que je dors dedans. Ouais. Donc ce traîneau, il me sert à dormir à l'intérieur, manger à l'intérieur. Communiquer par internet à l'aide d'ordinateur et puis à l'extérieur, eh bien, je peux m'asseoir dessus pour faire de l'aviron ramé. Je peux me retourner parce que l'aviron, ça se fait en regardant vers l'arrière du bateau, mais si j'utilise des cerfs-volants, il faut que je regarde vers l'avant, donc je me retourne et là je lance les cerfs-volants et je m'en sers pour avancer. Et l'autre, le dernier moyen, eh bien, c'est le vélo. Donc, quand j'utilise avec le vélo, je le pose sur une remorque et je tire ça derrière un vélo. Donc, et sans oublier qu'il a des patins aussi parce qu'il doit aller sur la glace. Donc, il a 2 patins en dessous qui lui permettent de glisser sur la glace. Donc, c'est un peu un couteau suisse. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études dans ce domaine-là, dans l'architecture navale. Et donc j'ai des réflexes qui sont revenus un petit peu de tout ça et j'ai essayé de garder l'objet très simple pour que il soit réalisable avec mes moyens aussi, hein. Donc ça c'était le premier cycle, hein, je l'ai construit d'abord sur un papier en dessinant, après je l'ai construit en bois pour essayer, pour voir si ça convenait vraiment à l'aspect pratique, est-ce que c'est réalisable, est-ce que je vais assez vite, est-ce que c'est dangereux. Et là, ce cycle vient de se finir et il faut que je dessine à nouveau et je construise le bateau final qui, dans l'esprit, reste le même, mais qui aura des différences quand même assez importantes, notamment pour améliorer la sécurité du bateau. Donc il sera un petit peu plus large et un petit peu plus long.
Il est lourd ?
Il est lourd. Alors le prototype actuel fait ferai 80 kg et le bateau final sera à peu près 40 kg puisque je changerai de matière.
Donc ce sera plus léger, ça c'est bien.
Ça sera beaucoup plus léger, ouais, ouais. Okay. Ouais, parce que chaque kilo, alors on dit, j'ai appris ça ce week-end, on dit que ce qu'on tire à force d'homme sur la glace, c'est l'équivalent. Alors si tu portes un poids de 90 kg à traîner sur la glace comme ça, tu le divises par 3 et c'est l'équivalent de ce que tu porterais avec un sac. Donc là, si tu tires un truc de 90 kg derrière toi sur la glace, c'est comme si tu portais un sac de 30 kg. Moi, je compte, au début de l'expédition, j'aurai un traîneau qui fera dans les 170-180 kg. Ça veut dire tirer quelque chose de 60 kg, à peu près. Et c'est pour ça que moi, j'espère avancer un maximum sur l'eau. Parce que sur l'eau, en fait, le poids se porte tout seul et t'as pas besoin de le tirer. Donc, c'est vraiment un défi. Aussi, voilà, personne n'a jamais fait ça. Il y a des gens qui tentent de plus en plus ce genre de choses. On sait que la banquise est en train de fondre et que dans 40 ans, elle n'existera plus. Enfin, non, même pas dans 40 ans, dans 20 ans, elle n'existera plus l'été. Et qu'on pourra faire ce trajet en bateau. Donc, à un moment, ce que j'essaye de faire là sera possible, c'est certain. Mais à savoir si c'est maintenant ou dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20. Dans 20, ça sera possible. Donc, ce qu'ont fait des grands explorateurs comme Jean-Louis Etienne, par exemple, ou Mike Horn il y a quelques années, eh bien c'est plus possible. Donc, faut inventer de nouvelles formes, de nouveaux moyens de progression. Et c'est sympa parce que du coup, c'est un boulot de plus d'inventeur que de. Enfin, c'est autant un boulot d'inventeur qu'un boulot de sportif, quoi.
Vincent montre que c'est lui qui va subir la nature qui l'entoure durant son voyage et non la nature qui va le subir, puisqu'il ne sera pas dans un véhicule polluant.
Qu'est-ce que tu vas emmener avec toi ? Qu'est-ce qui est indispensable pour toi dans cette expédition à avoir dans ton traîneau ?
Je dirais de la nourriture. C'est important parce que la nourriture, on trouve l'eau à l'état de glace. Et la nourriture, c'est ce qui nous permet de produire de la chaleur et de pas dépérir, quoi. Donc tout est important en fait. Il y a à peu près 60 kg d'équipement et chaque équipement est vital pour l'expédition, quoi.
Une bonne doudoune.
Une bonne doudoune, ouais. Mais c'est incroyable, hein. Vous verrez des images de cet endroit-là en été. La doudoune est très peu utilisée. Hein. Parfois on est torse nu à tirer le truc. Sur la glace, ouais. Faut se dire, c'est comme les, on va dire, une station de ski française en hiver. Quand des fois il fait beau et on est en t-shirt et on est sur la glace.
Et pour revenir à ton sommeil, quand tu seras sur l'eau, tu vas dormir sur l'eau ?
Très très peu, ouais.
Très très peu.
Très très peu. Ouais. Donc ce que j'ai remarqué avec en naviguant, et je suis pas le seul, c'est un petit peu le rythme que tout le monde utilise. Hein, quand on veut se priver de sommeil, on peut le faire. Il faut se fixer un petit peu des règles pour le faire. Moi, ce que j'utilise, c'est je fais des siestes de 20 minutes et je les répète pour surveiller un petit peu ce qui se passe à l'extérieur du bateau, éviter des collisions, les animaux sauvages. Et donc, on les répète autant qu'on est fatigué. Mais plus on dort, moins on avance vite. Donc, on va essayer d'aller dormir le plus tard possible. Donc, moi, généralement, la première nuit, je dors à peu près une heure et demie. La deuxième nuit, je dors 3h30-4h. Et après, sur du long terme, je dors à peu près 5h, 6h par nuit, par tranche de 20 minutes, quoi. Donc, ça se fait très bien. C'est juste au bout d'un moment très fatigant. Pas sur le manque de fatigue, mais psychologiquement, se lever, je ne sais pas, donc 6 fois 3, on va dire... une vingtaine de fois dans la nuit, c'est juste déprimant, quoi. Enfin, moi, c'est se dire, quand la première fois que tu vas te coucher, tu mets ton réveil et tu te dis, bon, cette nuit, je me réveille 20 fois. C'est dur. Parce que, on sait, à chaque fois, c'est dur de se lever. Je sais que j'aime pas me lever, donc à chaque fois, t'as 20 fois dans la nuit, c'est une épreuve, quoi. Mais c'est aussi 20 fois un soulagement, quoi. 20 fois, tu vas te coucher.
Et c'est la plus grande aventure que tu vas vivre, tu crois ?
Oh, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Après, c'est pas parce que c'est quelque chose d'important et d'assez médiatique que ça sera la plus belle aventure de ma vie ou la plus grande aventure de ma vie. J'en sais rien. Peut-être qu'elle est déjà passée.
Et pourquoi tu pars tout seul ?
Je pars tout seul parce que c'est C'est le... Donc quand je faisais de la voile, je faisais ça déjà en solitaire et ben ça fonctionnait assez bien. J'étais bien avec moi-même et donc ça c'est la première condition. Et après monter un projet tout seul, c'est plus facile. Parce qu'à deux, tu dois être deux à réfléchir, deux à faire des concessions. C'est deux fois plus cher. Voilà. Après, t'as aussi deux fois plus de chances de te blesser à deux. Mais tout seul, si tu te blesses, c'est deux fois plus critique, quoi. Si tu te blesses, t'as personne pour t'aider. Donc, c'est vraiment deux modes différents. Et moi, je me sens bien tout seul. Moi, je suis complètement sociable et j'adore mes amis, ma famille. Hein, mais je suis bien tout seul, ça me dérange pas trop.
Allez, chut. Maintenant, on écoute Mercredi.
Coralie et Vincent ont créé une association qui s'appelle Lama Productions. Avec cette association, ils ont organisé un festival. Un festival qui s'appelle En Pente Douce. Pendant ce festival, on pouvait regarder des films qui racontent les aventures de personnes comme vous et moi, mais avec des envies folles qui ne ressemblent pas à tout le monde. Coralie va nous raconter les histoires des films d'aventure que vous pourrez aussi retrouver sur Internet.
Jingle, Coralie.
Cette édition-là, on a choisi des portraits, en fait. On découvre des aventures qui sont, on a l'impression, c'est des individus assez comme nous, quoi, enfin, comme toi, comme moi, mais en fait, ce qu'ils font dans leur quotidien, c'est assez héroïque. Et donc, c'est les héros du quotidien. Donc, avec Brice Sevacher, là, qui part dans les montagnes, mais en fait, qui fait des choses extraordinaires, même s'il n'aime pas qu'on dise ça de lui. On a un vieux monsieur de 70 ans qui a fait plus d'1 750 000 kilomètres en 50 ans.
Ce qui fait quand même 30 kilomètres par an, quand tu fais la division. C'est 30 000 kilomètres par an.
Et par quel moyen ?
En vélo. Il part tout le temps, tous les jours de l'année, il part. Et lui, sa vie, c'était de collectionner l'école de montagne, toutes les routes, les diagonales en France, de partir du nord pour aller jusqu'au sud de la France. C'est ce genre de choses. C'est pas des courses qu'il faisait, c'était juste ce qu'on appelle du cyclotourisme. Il se balade et il roule avec des moyens assez précaires, avec son vieux vélo, avec son vieux pull en laine, avec du papier journal en guise de matelas. Enfin, c'est avec une philosophie qui était bien la sienne, quoi. Peut-être un peu vieux jeu, mais très touchant. Ça s'appelle, le film s'appelle Roule toujours. C'est un film qui est libre de droit sur Internet, sur Vimeo. Vous mettez Roule toujours et le monsieur, ce vieux monsieur s'appelle Patrick Plaine. Vous verrez, c'est un personnage très touchant. On a suivi une famille, une maman avec ses trois petites filles qui habitent à Marrakech, au Maroc. Et cette petite famille a décidé d'aller voir le désert. Donc Marrakech, c'est pas le désert, il faut franchir des montagnes pour arriver jusqu'au désert. Et elles ont décidé de le faire en 2 mois et demi et avec une mule, une sorte d'âne. Voilà, elles ont toutes les trois, les enfants ont de 8 ans à 4 ans, voilà, et avec toutes les difficultés que ça peut susciter de vivre à 4 comme ça, maman, enfant, à vivre sous tente ou chez des gens. Et c'est un très beau film où la maman se filme, a appris à se filmer, donc on a toutes les émotions des enfants, de la maman. Et c'est assez fort, puisqu'elle filme même dans les moments de galère, même dans les moments où elles ne savent pas où dormir. Enfin, c'est voilà, c'est un beau chemin, qu'elle nous propose, Aurélia Tazi. Elle s'appelle Aurélia Tazi, la maman. Et le film s'appelle Maman, c'est encore loin, le désert. Et ça c'est un film. Vous pouvez voir des bandes annonces sur YouTube pour vous donner un peu l'idée de la chose, quoi. Et c'est toute une éducation aussi avec ses enfants. Enfin, elle parle. Elle essaie de se poser la question de comment interagir avec ses enfants. Est-ce qu'elle est une bonne maman ? Et les enfants essaient de se trouver leur place aussi dans ce voyage. Il y a beaucoup de confrontations, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Et c'est un très beau film pour ça. Le Vacher à l'assaut des Pyrénées, c'est un sportif, mais aussi un vacher sur l'année, en fait. Il part pendant 6 mois, il part dans les montagnes avec un gros troupeau de vaches. Donc il monte 400 vaches tout là-haut dans les Pyrénées où il n'y a personne. Et il va vivre dans une petite cabane en bois pendant 6 mois, coupé du monde, enfin, juste avec ses vaches et les montagnes autour de lui, tout seul aussi. Et il se ressent sur lui-même, il écrit et surtout il court, en fait. Il court en haut des crêtes, il repère le terrain pour ses vaches, à la recherche de réglisse, le petit bonbon des vaches. Et donc, il est comme ça, il peut emmener ses vaches dans les bons endroits pour qu'elles puissent se régaler. C'est un sportif de haut niveau, en fait, puisqu'il aime dire qu'il ne fait pas du trail, parce que le trail, c'est un peu le mot à la mode qu'on dit pour courir dans les montagnes. Lui dit, je suis un coureur de montagne, je cours dans les montagnes. Il fait même des courses, il court avec les plus grands, comme Kilian Jornet, Et il se confronte à des difficultés qui lui plaisent, quoi. Voilà, et il redescend. Donc 6 mois de l'année, c'est plutôt l'été, hein, vous pouvez imaginer, c'est l'été. Là, quand l'herbe est bien verte. Et 6 mois, dès que l'automne commence à s'approcher, lui, il redescend avec toutes les vaches. Les éleveurs récupèrent leurs vaches. Et lui, il reprend une vie, on va dire, plutôt citadine chez sa copine, qui voit que 6 mois de l'année. Et voilà, c'est un rythme qu'il a adopté et je pense qu'il adore, quoi. C'est assez atypique, quand même. Il est dans un esprit aussi où pour lui, le luxe, c'est la montagne. C'est de vivre avec pas grand-chose, mais en même temps tout. Puisque là-haut, il a l'eau potable, il a un petit toit, une petite cabane en bois où il peut dormir. Et surtout, il a du temps, en fait. Et pour lui, c'est le luxe. Le luxe, pour lui, ce n'est pas les hôtels, c'est vraiment cet endroit. Et donc, c'est ça qui est assez beau dans son film, enfin, et dans sa manière, dans sa vie en général. C'est sa manière de voir les choses. En route pour l'aventure. Ta 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 ta. Le danger, on aime ça. Ouais, à l'assaut. Prêt pour le grand frisson. Pour devenir des héros. Ta 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 ta. C'est une expédition. Ta 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 ta. You, attention, nous voilà. Allez hop. En route pour l'aventure, on n'y résiste pas. Ta 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 ta. Aventure, nous voilà. Déterrer les trésors, trouver le filon d'or en déchiffrant le parchemin. Ramper comme les Indiens, courir sur les rondins pour découvrir le bon chemin. Le parcours fini, si j'ai réussi, je serai un héros, moi aussi. Allez hop.
en route pour l'aventure. Ta, 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 ta. Le danger, on aime ça. Ouais, à l'assaut, prêt pour le grand frisson, pour devenir des héros. Ta, 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 ta. C'est une expédition.
Toi, Coralie, c'est quoi la plus grande aventure que tu as déjà vécue?
La plus longue ou la plus grande, c'est différent.
Celle que tu préfères?
Ouais, celle que je préfère, c'est encore difficile.
Tu as vécu beaucoup d'aventures alors?
Non, j'ai pas vécu beaucoup d'aventures, mais la dernière que j'ai pu vivre, c'est je suis partie avec Cassian en voyage en vélo pendant 11 mois, faire le tour d'Europe. Et c'était un long voyage où, comme disait Vince tout à l'heure, ça paraît beaucoup de kilomètres. On a fait 14 000 kilomètres en 11 mois, mais lisser sur une journée, c'est pas beaucoup. Sur une semaine non plus, puisqu'on faisait des pauses, on a visité des choses. Après, il y a des fois, on a monté des montagnes, donc là, les journées étaient un peu plus difficiles. Ça, c'était... Enfin, voilà, on a découvert des pays à la vitesse du vélo. Et ça, c'était vraiment super chouette. Vraiment chouette. On t'accueille pas de la même manière que lorsqu'on arrive en voiture, comme tout le monde. On est en vélo, on a notre vie sur le vélo, à ce moment-là, en tout cas. Voilà, l'approche avec les gens est complètement différente. Elle est simple. Et voilà, c'était un super voyage où on est allé jusqu'à Istanbul et puis après on a longé la Méditerranée sur l'Europe. Alors, enfin, on est toujours en Europe, hein. On a longé la Méditerranée et puis après on est parti, on a pris un bateau pour aller au Maroc. On est resté un mois et on est remonté vers l'Espagne, le Portugal et puis la France. C'était mon plus long voyage.
Dans l'émission mercredi, on suivra de près les aventures de Vincent durant son voyage Rennes, Pôle Nord. Je vous redirai quand il sera possible de lui poser des questions sur son répondeur.
Il suffit pas de partir hyper loin en fait pour vivre une aventure. L'aventure, elle est là où on connaît. Enfin, ça peut être en traversant une rue qu'on n'a jamais prise. Ça peut être lorsqu'on a 5 ans, c'est d'aller dans le coin au bout de la rue et de tourner à droite puis à gauche et là on découvre un nouvel endroit, un nouvel espace et les sensations qui sont alliées à ce moment, c'est ça l'aventure en fait. Pourquoi aller loin? Pourquoi partir longtemps? Chacun définit l'aventure à sa manière, mais pour moi en tout cas l'aventure c'est pas une question de distance. C'est plutôt une question de sensation.
Mercredi.
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 Mercredi.